radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici, soutient la musique locale.
Le groupe toulousain Pirogue sur le chemin de l'école.
Les tentations qui me guettent.
Fait souffler un vent frais sur la scène toulousaine avec des accents pop rock solaire taillés pour toucher autant que pour faire bouger. Porté par des mélodies immédiates et une vraie intensité, Pirogue transforme chaque chanson en escapade musicale dont on ressort marqué. Sur le chemin de l'école, un coup de cœur ici Occitanie.
Écoutez ici la nuit et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Périgord.
Un mot que j'adore et que je ne connaissais pas avant de faire ma vie en Périgord Limousin, c'est le mot banturle. Connaissez-vous à quel moment ? Eh bien, vous avez déjà entendu parler d'une banturle. On peut considérer qu'affubler quelqu'un de banturle, c'est plutôt péjoratif. Je te promets, je suis revenu 2 heures après, il était encore sur le canapé, l'autre banturle. Hein, vous l'aurez saisi. La banturle est un mot occitan bien de chez nous qui qualifie l'individu de traînard, de mou du bulbe, qui se la coule douce. Après, il ne faut pas tomber non plus dans la facilité, parce que sur notre territoire occitan, banturlé, banturla, c'est une philosophie. Moi, j'aime banturler, hein, parfois, flâner, errer, déambuler sur les chemins sans but précis. Bah, j'aime aussi banturler dans mes propos, hein, c'est-à-dire divaguer. Pardonnez-moi, je banturle un peu, mais c'est ma façon de modifier le réel, quoi. Et vous, derrière le poste, aimez-vous la banturla, banturla, dans votre vie? Allez, adieu.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Les Suisses ont décidément besoin de nous pour tout. Hein.
Ouais, alors je vais pas vous faire toute la liste, on y passerait la journée, mais il y a quand même un truc qui est indiscutable. Est-ce que vous connaissez la langue suisse ? Eh ben non, et c'est normal parce qu'ils n'en ont pas, ou plutôt si, ils en ont 4, mais en fait ils les piquent aux pays voisins. Et donc, nos voisins romands, faute d'avoir leur langue à eux, eh ben ils parlent la nôtre. Oui, les Suisses, ne vous étouffez pas, mais pensez qu'à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est du français hein, qui en sort. Sans nous, vous seriez muets. Remarquez que des fois, ce serait peut-être pas plus mal.
Bon, et d'après vous, on est trop gentils.
Bah, déjà, plutôt que de leur prêter, on devrait leur louer. Hein, eux qui savent si bien dire qu'on est pauvre à côté de leur pays coffre-fort. Mais ça, bon, passe encore. Par contre, il y a une attitude qui est insupportable, c'est de se croire proprio de ce qu'on vous prête. Quand vous invitez des amis à manger, ils viennent avec un petit cadeau, mais ils n'amènent pas leurs meubles pour s'installer. Eh bien, les Suisses, si.
Ça mérite une petite explication, là, quand même.
Alors, ils n'ont pas de langue, donc pas de dictionnaire. Nous, on a le Robert. Eh bien, je vous le dis, si on les laisse faire, ils vont nous le naturaliser suisse, le Robert. Leur université a en effet fait le forcing pour entrer des mots de leur dialecte dans notre dico. Le carac. Est-ce que vous savez ce que c'est le carac ?
Non.
Évidemment non. Eh ben, ça y est, le carac est dans le Robert. C'est une tartelette garnie d'une ganache au chocolat et recouverte d'un glaçage de couleur verte surmontée d'une pastille de chocolat. Mais une tartelette suisse.
Oh là là.
Et comble de l'insolence, ils ont même proposé d'y entrer le mot frouze. Alors je vous le dis, méfions-nous de leur intrusion dans notre belle langue française, sinon on n'est pas à l'abri d'une lente annexion. Et ça, eh ben c'est impossible ou bien ?
Merci beaucoup David. On entend le message, attention, hein, ça commence par le dictionnaire et puis après on ne connaît pas la suite. Très bonne journée et puis on se dit à demain comme d'habitude.
À demain.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
vraiment dans l'ambiance. Hein. Voilà. Pour découvrir.
C'est par là.
Oh. Bonjour. Donc là, parmi les bruits que vous entendez, on est vraiment dans l'ambiance du début de vinification dans un domaine viticole en Bourgogne. Alors, Nathan Drouin, on est chez vous et on est un petit peu pas chez vous.
Exactement, ouais. On est chez Vincent Girardin, donc au 5 impasse des Lampennes, à Meursault. Et donc, j'ai la chance de pouvoir vinifier ici, dans cet espace, chez, du coup, mon patron.
Toi, t'as été mis en tonneau déjà.
Oui, tout à fait.
De ce millésime 2025.
Exactement. Pour l'instant, seuls les aligotés sont en fermentation. Et les Saint-Romain et les Hauts-Cédurès, qui ont été récoltés un petit peu après, eh ben, eux ne sont pas encore partis en fermentation. Ah. Ils sont en demi-muit, en fait. Ah. C'est pas la pièce traditionnelle bourguignonne, mais c'est des fûts de 500 litres. Pour pas justement marquer trop le vin et donc avoir vraiment la fraîcheur de l'aligoté sur ce que je recherche.
Le fait d'avoir son petit rond de serviette.
Oui.
Dans un domaine a priori assez gigantesque, hein, parce que là on est vraiment dans une forêt de tonneaux.
On est bien équipé, et c'est ça la chance.
C'est ça en fait, voilà, parce que le fait de démarrer une activité viticole aujourd'hui.
Exactement.
En Bourgogne, ça vous aurait demandé des millions d'euros, j'imagine.
Oui, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'investissements de ma part aussi. Et donc là, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir les vignes et de me consacrer aux vignes et d'avoir cette partie-là pour vinifier. Donc oui, très chanceux et très reconnaissant aussi.
Parce que d'un point de vue organisation, ça ne doit pas forcément être facile non plus. Je me dis, vous partagez quoi, un calendrier, un tableau Excel sur « Attendez, je viens bosser tel jour pour moi, je viens bosser tel jour pour le domaine ?»
Non, je travaille au domaine et puis le soir, ben, je fais mes petites cuvées ou le matin en arrivant, je m'organise comme ça. Ou entre midi et deux aussi.
Sur vos temps de pause.
Exactement.
Vigneron pour son domaine en dehors de ses horaires de travail, dans un autre domaine viticole, c'est le quotidien de Nathan à Meursault. Ici Bourgogne, la vigne, ça s'écoute.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Chimney top, that's where you find.
Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Lorraine.
On sait qu'on est Lorrain, Nicolas Turon, parce que...
Parce qu'on connaît les petites roues de Revigny.
De Revigny?
Revigny.
Revigny, c'est dans les Vosges?
Ah non, c'est dans la Meuse. Oui, sud de la Meuse. C'est trop facile d'ailleurs de se moquer tout le temps de la Meuse, comme vous le faites dès que le micro est éteint, Frédéric.
Non, arrêtez,
j'entends trop
vrai.
De mauvaises langues dire de ce département que c'est le trou du cul du monde. Bon,
c'est pas la Creuse.
C'est bon, pas loin.
C'est la Meuse.
Il y a même une homonymie. Il y a quelque chose de phonétique entre Creuse et Meuse.
Arrêtez.
Tu creuses ta fosse, Martoni. Bon, certes, ce département rural est l'un des plus touchés par la plaie des logements vacants. Près d'une habitation sur cinq est vide. Dans de nombreuses communes. Certes, il a été classé deuxième pire département de France sur Instagram en 2022.
C'est pas vrai.
Certes, c'est l'un des moins densément peuplés de France. Et certes, on y consomme plus d'héroïne que partout ailleurs en France. Mais sachez que c'est faux. La Meuse n'est pas le trou du cul du monde. Ça fait maintenant un moment qu'on a la preuve que le plus grand trou du cul du monde est à Washington. En revanche... Dans le sud de la Meuse, le long de l'Ornain, il y a des petits trous. Des trous d'eau, bien cachés dans la forêt, qui ont chacun un nom particulier. Alors ces noms-là, vous ne les trouverez pas sur les cartes IGN. Il faut être braconnier, ou historien, ou les deux à la fois, ou rencontrer les Révinéens pour les connaître. Ainsi, le trou nacelle, donc on est d'accord, c'est des noms donnés à des petits trous d'eau dans la forêt.
Oui, oui.
Le trou nacelle tient son nom d'un engin qui traversait l'eau lors des travaux du canal de la Marne au Rhin.
D'accord.
Qui traverse la Lorraine, travaux menés par l'ingénieur Charles-Étienne Collignon au 19e.
D'accord.
Et cette nacelle, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, elle est tombée.
Dans un trou.
Eh bien, voilà. Donc, ça devient le trou
nacelle.
Le trou prussien.
Alors, ça date,
de 1870.
De la guerre de 1870, oui.
Un Prussien s'y est noyé pendant la guerre. Alors, le trou est un petit peu maudit. Il faut pas trop y traîner. Ce que l'habitant que j'ai rencontré m'a confié à mi-mot, en me faisant jurer de ne pas le répéter à la radio, c'est qu'on a peut-être aidé un petit coup le Prussien à se noyer. Si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, mon préféré est le trou Marius, qui doit son nom à un braconnier qui pêchait à la main. Quand il voyait le garde champêtre arriver, il se foutait à l'eau et respirait à l'aide d'un roseau. Il faisait le plongeur sous-marin, et le lendemain, on le voyait aller donner du poisson aux huiles dans le château du coin, donc il était couvert malgré tout. Alors, ne dites plus jamais, s'il vous plaît, que la Meuse est un trou. Dites-moi de quel trou il s'agit.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici, Pays de Savoie.
Mes petits bonheurs, ce sont des rencontres au petit bonheur, donc... Au hasard, sans rendez-vous, sans se présenter, avec juste un tout petit et discret micro ici. Et en voici un de petit bonheur que je vous ai trouvé en Haute-Savoie, dans la commune de Rumilly, où pendant près d'une dizaine de minutes, j'ai suivi en voiture une monoplace qui circulait dans la ville. Alors maintenant qu'elle est arrêtée et que je m'en approche, je m'aperçois de mon erreur.
Bonjour.
Bonjour, c'est pas une monoplace, il y a deux places quand même.
Oui.
Et c'est quoi cet engin ?
C'est une arrêt l'atome.
Je vais attendre qu'il enlève son casque parce que là on comprend pas trop bien. Voilà.
C'est une arrêt l'atome.
Ça veut dire quoi ?
Arrêt l'atome, c'est un moteur, enfin une voiture entière anglaise. Donc avec un moteur Honda compresseur, 310 chevaux, pour un poids total de 500 kg.
Quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, parce que je vous ai croisé, vraiment, ça fait un petit moment là que je vous ai suivi, de loin, on a l'impression de voir arriver une monoplace.
Ouais, c'est atypique, ouais.
Ça, c'est autorisé à rouler ici, sur la voie publique.
Il n'y en a que 27 en France homologués, sur route, et autrement, toutes les autres, elles sont sur piste.
Donc là, ça veut dire rouler avec un casque, obligatoire
Oui. C'est conseillé, parce que si vous avez un accrochage, un accident...
En même temps, quand on a une voiture comme ça, on n'a pas trop envie d'avoir un accrochage.
Ouais, faut faire attention avec ça sur la route. Il peut vite arriver des accidents.
Et alors là, c'était quoi, un petit tour pour le plaisir?
Ah non, c'était juste pour poser chez Anthony. Il doit faire un petit check sur la voiture.
C'est qui Anthony? C'est un mécano?
Ouais, Anthony.
Et ça, c'est votre voiture?
Non, c'est la voiture à mon papa. Là, il est au travail et vu que j'ai un petit trou entre les cours, je l'ai ramené.
Ouais, ouais, puis ça doit plutôt faire plaisir de ramener cette voiture-là, surtout.
Ouais, c'est cool, ouais, c'est fun. Ça fait plaisir.
Du coup, le papa, il roule beaucoup avec?
Ouais, il roule plutôt pas mal, ouais. On l'a eu il y a un petit peu moins de 2 ans et on a roulé sur piste, ça va plutôt pas mal, ouais.
Et ici, dans l'agglo, à Rumilly?
Pas trop sur la route, on évite un petit peu de rouler.
Parce que là, je vous ai suivi 3-4 km, je sais pas, on était vers Moy là-haut, là. Oui. Et vous avez bien vu le regard de tout le monde, quoi. Tout le monde vous mate.
Ouais, c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit une voiture comme ça, donc c'est drôle.
Vous, c'est une passion, la voiture?
Bah, moi, à côté de ça, je fais du karting de compétition.
Et... Ah oui, les chiens font pas des chats, quoi.
Ouais, ouais, t'as le père, t'as le fils, ouais, on peut dire ça, ouais.
Vous avez quel âge?
J'ai 17 ans.
Bon, en général, les jeunes qui se lancent dans le kart et puis qui ont un petit peu des capacités, l'objectif, c'est pas le kart, c'est quoi derrière?
Après, peut-être monter les échelons, mais ça coûte très très cher, donc. Pour l'instant, l'instant, je suis bien dans le kart.
Bon, papa, il a les moyens de s'acheter une belle voiture quand même.
Oui, mais bon, une saison de monoplace, c'est trois fois le prix de cette voiture. Donc, puis j'ai deux grandes sœurs, donc il faut que ce soit équitable.
En 17 ans, peut-être que vous commencez à avoir des perspectives professionnelles.
Oui, moi j'aimerais bien être horloger.
Ah oui, rien à voir, je m'attendais à un truc, voiture.
Ah non, du tout, c'est vraiment un loisir.
Et votre prénom ?
Alexis.
C'est quoi le dernier petit bonheur d'Alexis ?
Dernier petit bonheur, je sais pas, manger.
Conduire la voiture à papa, c'est pas un petit bonheur ?
Si, c'est un grand bonheur ça. C'est un grand bonheur. C'est pas pareil. Mais ouais, je suis fier que mon père me fasse confiance, quoi. C'est incroyable de pouvoir conduire ça à 17 ans, j'ai beaucoup de chance.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici au Serre.
Minute Papillon ce matin avec vous Thierry. Le train entre en gare de Dij pour un aujourd'hui. La vieille gare de Dij-Pourin retrouve une seconde vie grâce à Nadia et Stéphane Gauthier. Les fondateurs de la miellerie des glycines de Dij l'ont racheté en 2024. Un achat coup de cœur devant le cachet de ce bâtiment emblématique, fermé depuis plus de 70 ans. Leur idée en l'achetant, c'était de le sauver et de le restaurer.
Ah ouais, ça c'est une bonne idée.
Oui, c'est une bonne idée. La gare, transformée en maison dans les années 60, avait été un peu laissée à l'abandon. Depuis un an, la famille mène un important chantier de nettoyage et de rénovation. En explorant les lieux, elle a retrouvé plusieurs vestiges du passé ferroviaire de ce lieu. Des pavés, des anciennes voies, la pancarte Dij-Pourin ou l'altitude gravée sur la façade.
La nostalgie des origines.
La passion des objets qui ont une histoire aussi sûrement. La famille souhaite maintenant réhabiliter le quai de chargement pour le transformer en salle de réception, aménager la gare en gîte et installer leur miellerie dans l'ancienne salle d'attente. Pour retracer son histoire, la famille a lancé un appel à témoignages sur sa page Facebook et sur le groupe « Ça se passe dans Lyon ». Un appel très vite suivi de nombreux commentaires d'internautes. Des riverains et anciens voyageurs partagent leurs photos, leurs cartes postales ou leurs anecdotes comme l'histoire d'un Iconé né dans la gare. La gare qui a fonctionné de 1885 à 1952, elle servait notamment au transport de marchandises comme l'ocre, les légumes ou les animaux. Une mémoire que les Gauthier souhaitent elle aussi restaurer. Et il y en a des histoires à raconter sur les gares.
Qu'est-ce qu'on peut pleurer dans les gares ? Qu'est-ce que c'est mauvais pour les yeux ? Qu'est-ce qu'on peut flinguer comme mouchoir dans une gare quand on se dit adieu ? Oh, à la gare du Nord !
Ah, c'est vrai qu'on peut pleurer aussi dans les gares, on peut sourire.
C'est pour ça que les réseaux sociaux aussi sont formidables. On peut aussi trouver de bonnes archives comme ça.
Si vous avez des histoires à raconter sur cette gare de Dij-Pourin, bah vous pouvez aller sur la page Facebook de cette miellerie ou de Ça se passe dans Lyon.
Vous écoutez ici.
You better show me now, show me now, show me now.
Et nos podcasts. Un podcast ici, Berry.
Je vais en devoir passer le toit, donc c'est beau. On va l'entendre brioler jusqu'au bout du village.
En Berrichon, dans le texte.
Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui briole. Dans le temps, ben avant les tracteurs et puis même les chevaux, ça t'a des bœufs qui tiraient les charrues au moment des labours. Puis dame, ce brave bête, fallait les guider, puis les encourager. C'est pour ça que le laboureux, qui les accompagnait, il briolait, ce qui veut dire qu'il chantait une sorte de complainte. Ce chant s'adresse aux bœufs de l'attelage, désignés par leur nom, le plus souvent choisi pour évoquer leur couleur ou leur caractère. Voici un extrait de la chanson « Briolage ». Montez donc voir là mes grands bœufs, mon cadet, mon joli, mon taupin, mon paillon, mon charbonneau. Puis quand on les avait flattés par Yunon, fallait soit les encourager si jamais ils bordissaient, soit les calmer, puis les remettre en ligne, quand que c'est qu'ils commençaient à pu aller droit, pour pas qu'ils fassent un des ânes. Une âne, c'est une longériole de terre qui reste pas labourée au milieu du djéré, à cause que la charrue elle a dévié. Là une autre briolage. Vingt ans donc par-delà ce djéré, mon gaïa, mon sarzé, mon givet, mon fauvio, mon varmet, mon châtain. Hé, hé mes mignons, hé mes volets, allons. Le brioleux qui chante, il avait donc une attelage à six bœufs. Qu'il teint de toutes les couleurs. Bigorré, garia ou gorio, brun, sarzé pour sarrasin, gris, givet, fauve, fauvio, vermeil, varmé, marron, châtain. Ce brave zomaille, des fouets, fallait les gider. Et doucement, doucement, passez-moi pas si près du buisson, fallait me déchirer mon veston.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici RCFM.
Sochinquantani, qui est Patrick Ambrosi, stai nous obaise di Gastello. Il y a 5 ans, il a décidé de créer une biscuiterie au village, juste au-dessus de sa maison.
J'étais dans la menuiserie, des rancalards, voilà, pour que Saint-Joseph et Saint-Dizet, deux pour le stade ou à l'armade, ils sont partout, à peine de 2 ans. Et d'autres, vous avez une un pays. Passion de la cuisine, j'ai toujours cuisiné avec ma mère, mon père cuisinait beaucoup. Et oui, et puis après, surtout tout ce qui est biscuiterie, anciennes recettes que ma grand-mère faisait, que j'ai gardé les cahiers, les livres, et marqué sur les livres, et voilà. Et un bastion, à Fatou, qui a dû avoir perturbé.
Patrick confectionne tout ce qui est gâteau sec.
Donc, le canistrille, il y a, bien sûr. Donc, maintenant, canistrille au citron. Et après, les gens vous demandent beaucoup de parfums, maintenant. Donc, il y en a au citron, aux amandes, aux noisettes, au chocolat. Il y a des coups de gelée de vin blanc. Après, je fais tout ce qui est moelleux et tout ce qui est cake, moelleux, serviade à la sauge, au nature, tout ce qui est panette, tout ce qui est fiadone, embrouchade, voilà, fiadounette, toutes ces petites recettes, anciennes recettes. Voilà, ma passion, c'est de retrouver des recettes à droite à gauche des anciens et les reproduire maintenant.
Et l'artisan vend ses produits en direct dans sa boutique.
Les locaux viennent souvent jouer le jeu et ils viennent souvent. Ils sont même contents de venir. Et puis après, avec les personnes de passage, les personnes qui sont en vacances, les randonneurs, les touristes. Voilà, après, je fais des marchés, je fais des foires. Des fois, des associations qui font des petits marchés. Moi, j'adhère beaucoup à ça. Je trouve une importance à ça, donc je participe aussi en mettant mon stand. Voilà.
Patrick a créé aussi une petite épicerie fine.
C'était une demande au village, et un petit pèse, le détour m'a demandé de les faire à Strafar, et des fois travailler, et tout type de tort, qui soit quand au Gircon, une pèse, à Kant, une cabigourse, ou voilà, j'ai de l'huile d'olive, j'ai du vin, j'ai de la charcuterie, j'ai des fromages, j'ai de la farine de châtaigne, les confitures qu'on fait nous. Hein, les confitures, c'est ma femme qui les fait, les confitures, toutes les confitures anciennes qu'on fabrique.
Faire perdurer son activité, continuer à tisser un lien social si cher aux habitants de Castelloubrandou, tels sont les espoirs de Patrick Ambrosi pour l'avenir.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Gascogne.
Formidable histoire. À la Bastide d'Armagnac se trouve Notre-Dame des cyclistes, une chapelle, comme son nom l'indique, consacrée au cyclisme. Notre guide, Claude Mado, président des Amis de Notre-Dame des cyclistes.
L'histoire de Notre-Dame des cyclistes, c'est grâce à un curé qui habitait à Créon d'Armagnac, un petit village à une dizaine de kilomètres de la Bastide d'Armagnac. Et c'était un fou de vélo. Il a été, durant son sacerdoce, il a été 18 fois à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a été 12 fois à Rome, à vélo. Il a été 4 fois à Fatima, à vélo. Et alors, c'est en se promenant sur les bords du lac de Côme, en Italie, qu'il s'est aperçu qu'il y avait une chapelle qui était dédiée aux cyclistes italiens depuis 1948. Il s'est aperçu qu'il y avait des maillots accrochés au mur et des vélos suspendus au plafond. Il est allé voir le maire de la Bastide d'Armagnac pour lui raconter qu'il avait vu ça en Italie et qu'il voudrait la même chose en France. Le maire lui a dit « Attendez, cette chapelle qui est abandonnée depuis un certain nombre d'années, nous allons la raser. » De là, puisque le maire ne veut pas entendre, je vais voir le préfet. Il est allé voir le préfet des Landes, il a raconté l'histoire au préfet des Landes, qu'il avait vu ça en Italie, etc., et qu'il voulait faire ça en France. Il a dit, mais je suis tout à fait d'accord, sachez que la préfecture ne s'y opposera pas. Alors il a réfléchi quelques jours de plus dans son presbytère, et puis il a dit, bon, maintenant, pour faire ça, il me faut l'accord de l'évêque. Et l'évêque ne lui a rien dit, et lorsqu'il est parti, il a dit, oh là, j'ai dû faire un impair quelque part pour ne pas qu'il me réponde. Puis il a réfléchi quelques jours de plus, il a dit, là, il prend son vélo, il part à Paris voir le grand directeur du Tour de France qui était Jacques Gaudet à l'époque. Et Jacques Gaudet lui dit, mais c'est une très très bonne idée. Si vous voulez faire la même chose en France, bravo. En rentrant de Paris à la Bastide d'Armagnac, qui est quand même plus de 800 km, il dit, il me faut l'accord de l'évêque impérativement. Alors l'évêque lui dit, mais écoutez, mais moi je ne peux pas vous donner mon accord. Il dit comme ça. Le seul qui puisse vous donner l'accord, c'est le pape. Qu'à cela ne tienne, il dit. Il est parti le lendemain voir le pape à Rome. Il est revenu 18 jours plus tard. Et le premier qui est allé voir, bien sûr, ça a été le maire de la Bastide d'Armagnac. Et toi, il dit, je ne te demande pas ce que tu en penses, je te demande surtout de me restaurer cette chapelle le plus rapidement possible. Parce que moi, je veux l'inaugurer très rapidement. Et c'est ce qu'il a fait.
Est-ce que dans notre chapelle, aujourd'hui, dans les Landes, Notre-Dame des cyclistes, il y a, à l'image de celle d'Italie, des maillots et des vélos au plafond?
Absolument. Il y a 831 maillots qui sont accrochés au mur. Et j'en ai 350 dans des cartons qui attendent que je trouve de la place, parce que j'ai plus de place.
Notre-Dame des cyclistes est ouverte à la libre visite de mars à octobre et toute l'année pour les groupes. Tous les renseignements auprès de la mairie de la Bastide d'Armagnac. Recommandé par Ici Gascogne.
Ici, actu local, musique et bonne humeur. Les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Besançon.
Ici Besançon.
Louis Paton.
Ici Matin.
7h40, Arnaud Fromage est avec nous pour la nécessaire minute comptoise, des infos insolites, improbables tous les jours. Bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour.
C'est mercredi aujourd'hui, il va falloir trouver une activité pour les enfants, forcément.
Oui, et comme ils n'ont repris l'école que depuis deux jours, je n'imagine même pas ce qu'ils peuvent avoir en tête. Tenez, nous sommes en juin 2015 à Beaucourt, dans le territoire de Belfort. Dans le cadre d'un atelier, les élèves du club de sciences du collège Saint-Exupéry s'apprêtent à réaliser l'expérience qu'ils préparent depuis des mois. Tout le collège est là, la presse est invitée, les scientifiques en herbe sont inquiets. Il est 9h20, leur H du jour J de l'année A est là, 10 mois de travail sont en jeu, leur ballon sonde est prêt à s'envoler.
Oh, mais c'est juste ça, une expérience météo, c'est pas la peine de mettre autant de suspense, Arnaud.
Non, ce n'est pas qu'une expérience météo. C'est aussi une expérience charcutière, parce qu'au ballon sonde, destiné à tutoyer la stratosphère, est attaché une saucisse de Mordeaux. Oui, les collégiens de Beaucourt ont décidé d'envoyer une saucisse dans l'espace. Dans le ciel de Beaucourt, une nacelle contenant un système, un fil chauffant activé par une minuterie destinée à libérer la morteau au bon moment, s'élève, tiré par le ballon gonflé à l'hélium. À bord, deux caméras sont embarquées pour suivre le périple de la saucisse qui ne fait que commencer sous les hurrahs de la foule qui s'élève.
Ah mais qui a eu cette idée, Arnaud, sans rire ?
En réalité, c'est un concours de circonstances. Au départ, il s'agissait bien d'envoyer un ballon sonde, comme ça se fait souvent dans les clubs de sciences. Et puis, c'est au programme de quatrième, mais avec un petit personnage en plastique, en guise de charge. Or, il se trouve que le professeur de physique-chimie du collège de Beaucourt connaît bien Bertrand Vinçu, qui lui travaille régulièrement pour la promotion de la saucisse de Mortaux. C'est à lui notamment qu'on doit l'idée de la Mortaux mobile, envoyée sur la caravane du Tour de France en 2014. Alors forcément, ça fait tilt. L'association de défense et de promotion des charcuteries et salaisons IGP de Franche-Comté donne son accord, la Mortaux va pouvoir s'envoyer en l'air.
Ah, c'est complètement fou. Bon, j'espère juste que personne ne s'est pris ensuite une saucisse sur la tête parce qu'elle est forcément retombée après.
Effectivement, et je vous rassure tout de suite, personne n'a été blessé lors de la redescente de la Mortaux qui aura tout de même atteint les 30 000 mètres d'altitude, soit deux fois plus haut qu'un avion de ligne, avant de retomber près de Zurich, en Suisse. Une fois récupérée, la partie plus sérieusement scientifique a pu commencer avec les analyses de température et de pression atmosphérique par les élèves. Mais voilà, cette anecdote prouve une fois de plus que quand on veut faire une connerie, autant y aller à fond, parce que c'est très sérieux, la connerie.
Alors rendez-vous compte, une saucisse de Mortaux dans l'espace, on en apprend vraiment tous les jours avec la nécessaire minute comptoise d'Arnaud Fromage. Vous réécoutez, vous voyez aussi des images évidemment sur ici.fr Besançon. Merci beaucoup Arnaud et puis à demain.
À demain.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Belfort-Montbéliard.
Une comptoise qui compte à vous dévoiler. On a rencontré Mélanie Pugin. Elle, le sport, c'est toute sa vie. Écoutez.
Je m'entraîne beaucoup dans le Val de Mortaux, donc j'adore voilà, nous, tous nos monts, nos mets, donc le Mémézi, le Mont Châteux, le Mont Bouillot.
Ici Belfort-Montbéliard, les comptoises qui comptent. Noah Sommier.
Mélanie Pugin est championne de VTT. Il y a un an, elle a décroché la médaille d'argent au championnat du monde. Cette année, la médaille de bronze. Mélanie, le VTT est entré comment dans votre vie ?
Assez tôt, grâce à mes parents. J'ai un papa qui était passionné de VTT et il nous a emmené assez tôt sur toutes les randonnées de la région. Donc on faisait toutes les randonnées en famille. Et c'est comme ça que j'ai accédé à ce beau sport qu'est le VTT.
Alors, entre découvrir la discipline et arriver à votre niveau, c'était l'objectif, c'était limpide ?
Alors, déjà, je pense que ce qui était limpide, c'était que c'était une vraie passion. C'est quelque chose que j'ai jamais arrêté. J'ai jamais fait une année sans faire de VTT, je crois. Enfin, je suis même sûre. Donc, ce qui était limpide, voilà, c'est que ça m'animait vraiment de faire du VTT, ça me passionne vraiment dans tout mon corps. Le fait de pédaler, d'avoir cette adrénaline, d'être à l'extérieur aussi, d'être dans la nature, ça c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et après est venu le goût de la compétition, le goût d'aimer gagner, de se dépasser aussi. Donc ça c'est toutes les petites choses qui sont arrivées, on va dire, plus subtilement au fil des années. Mais ouais, je dois dire que cette passion, elle est quand même toujours présente et ça depuis le début.
Participer, être médaillé sur les championnats du monde, mais j'imagine que ça doit être super valorisant.
Oui, c'est extrêmement valorisant. C'est l'objectif de l'année, pour nous, en tout cas, dans notre discipline, parce que gagner le championnat du monde, ça nous permet aussi de porter le maillot arc-en-ciel pendant un an. Donc, en fait, c'est comme si on était reconnu champion du monde pendant un an. Donc, c'est quelque chose de très valorisant, c'est très gratifiant. Ça permet aussi à nos sponsors d'être mis en valeur. Donc, c'est quelque chose vraiment d'important. Le stress, il est là. Ça reste quand même une compétition avec un gros enjeu. Donc, le stress, il est présent. C'est du bon stress, on va dire. Et après, il se passe ce qui se passe. Mais c'est quelque chose, j'y pense toute l'année pour arriver en forme et dans un très bon état d'esprit le jour J.
Et la Mélanie Pugin, hors compétition, qui prend son VTT pour se balader en Franche-Comté, elle se balade où ?
Tout le haut doux. Moi, je roule beaucoup quand même sur le Val de Morteau. Donc, je suis originaire de Morteau et je m'entraîne beaucoup dans le Val de Morteau. Donc, j'adore, tous nos monts, nos mets, donc le Mémézi, le Mont Châteux, le Mont Bouillot. À chaque fois, en fait, on a un belvédère avec une vue, vraiment une belle vue, que ce soit sur le massif jurassien ou que ce soit côté suisse. Ça, c'est ce qui me plaît le plus, en tout cas, quand je m'entraîne.
Le Nord-Franche-Comté s'exprime, comme Mélanie Pugin, que vous venez d'entendre. Au micro, ici, elle représente le Nord-Franche-Comté et la Franche-Comté sur les disciplines de VTT, avec notamment cette médaille de bronze lors des derniers championnats du monde.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Mayenne.
Je vous emmène à Laval, dans les locaux de la Ligue contre le cancer, où on découvre à l'intérieur une salle dédiée au sport adapté. Toutes les semaines, il y a des sessions de gym thérapeutique. J'ai assisté il y a quelques jours à une séance où trois femmes atteintes d'un cancer y participaient. Elles souffrent chacune de pathologies différentes. Guidées par Marion, la coach, elles ont dû faire, parmi les exercices, des pompes en prenant appui sur une chaise.
18, 19, dernier. Allez.
Comment vous faites, Edith? Vous n'êtes presque pas fatiguée. Comment c'est possible, ça?
On écoute bien les conseils de Marion par rapport à la respiration. Quelle que soit notre pathologie, il faut toujours bien écouter pour ne pas faire de travers et ne pas se faire mal.
Bon, et là, Marion, elle est en train de se dire, il faut passer à l'exercice suivant, et je crois qu'elle a envie que je participe. Alors, je fais l'exercice avec vous et avec vos amis,
Edith. D'habitude, on a un homme avec nous, mais aujourd'hui, il nous a fait faux bond.
Je fais donc office de remplaçant et j'écoute les consignes de Marion pour le nouvel exercice.
On fait la chaise sans chaise, donc c'est la chaise contre le mur, le dos bien plaqué, on immerse aussi les lombaires contre le mur, on a les pieds parallèles, les genoux à 90 degrés pour l'angle mollet-ischio-jambier et on se passe le ballon les unes aux autres, comme ça, pendant 30 secondes.
Donc c'est un ballon de baudruche, allez c'est parti, on fait la chaise avec tout le monde, avec vous Marion, avec Edith, avec Annie, avec Isabelle également.
C'est parti.
Hop, le ballon, je suis déjà pas bien alors que ça vient de commencer.
Est-ce que ça va trembler?
Il faut tenir.
Bravo.
Voilà, j'ai quand même tenu grâce aux encouragements d'Edith.
Bravo.
Elle vient à ses ateliers toutes les semaines, des séances qui sont vraiment très importantes pour elle.
Bien d'abord ça nous sort de notre zone de confort physiquement, puisqu'on se croit incapable avec notre pathologie de faire quoi que ce soit, alors qu'on s'aperçoit qu'on est capable. Dans la mesure où on est bien encadré, alors que Marion est là pour nous guider et nous ralentir, d'être tout ensemble en même temps, ça nous apporte ça physiquement, et puis ça nous fait rencontrer des personnes, et ça, quand on a un cancer, quel qu'il soit, on est très isolé, malgré tous les soins qu'on peut avoir, on est très isolé chez nous, et d'avoir des soins de support comme ceux qu'on reçoit à la Ligue, c'est super important pour le moral. Et le moral fait partie de la guérison pour celles qui auront de la chance de guérir, et puis de l'état général pour ceux qui doivent vivre avec, comme moi, un cancer chronique.
Vous luttez contre quelle maladie alors précisément? On peut le savoir?
Oui, moi j'ai un cancer des ovaires en phase 4, donc qui a métastasé sur le péritoine et les poumons, donc qui n'est plus guérissable.
Et alors, ce qui m'a frappé, c'est le sourire d'Edith et des autres participantes pendant cette séance. Marion, la coach, n'y est pas pour rien. Avec elle, les séances, ça commence toujours d'ailleurs par une chorégraphie.
J'essaye à chaque fois de mêler un petit peu d'exercices cardiovasculaires et d'exercices de renforcement. Donc, c'est assez varié, sous forme de jeu toujours, sous forme de relais. On peut aller dehors, on peut aller dedans. C'est assez ludique. On fait un petit peu d'équilibre à la fin. Elles aiment pas trop, mais finalement, on rigole plus qu'autre chose.
Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, en tant que coach, de venir ici chaque semaine dans les locaux de la Ligue contre le cancer à Laval?
C'est incroyable. C'est un rapport humain que je n'aurais jamais soupçonné et elle m'apporte beaucoup plus que ce qu'elle ne pense. C'est indescriptible. J'en ai pas les mots.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
Du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Complètement gaga.
De vos parler d'ici.
Complètement gaga avec Olivier Glin. Alors bonjour Olivier, on parle d'eau aujourd'hui ?
Vouille, sagassouille. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir des mots qu'on en trouve nulle part ailleurs. Chez nous dans le parler gaga, on a des termes pour tout. Et pour patauger dans l'eau ou la gadoue, on n'a pas un mot mais trois. Bassouiller, gabouiller et gassouiller. Oui, trois verbes pour exprimer le bonheur de tripoter de la flotte ou de barboter dans la boue liquide. Et comme on est généreux, hein, quand même, on ne s'est pas arrêté là. et on a même des noms qui vont avec. On appelle ça des déverbaux, car ces noms viennent des verbes. On a la bassouille, la gassouille et la gabouille. Ces mots sont employés dans la Loire, mais également dans le Lyonnais et le Beaujolais, et puis de façon plus générale dans une bonne partie de la région Rhône-Alpes. Voici une maxime qui nous est donnée par Jean-Baptiste Martin. T'as beau gabouiller la bassouille, t'en feras pas rien des œufs à la neige. La plupart du temps, c'est juste remuer l'eau, éclabousser, patauger. Bref, faire ce que les mamans, elles y trouvent à redire quand les enfants reviennent avec le pantalon trempé. Et s'il y a des gens qui aiment bien gassouiller, ce sont bien les enfants. Les matrues, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour leur faire plaisir. Tu sors une petite bassine, tu mets un peu d'eau au fond et c'est parti pour la gassouille. C'est que ça peut gassouiller jusqu'à l'évaporation totale. La gassouille, c'est révélateur de la personnalité profonde des gens. Hein. Comme le dit l'adage, dans la gassouille, il y a deux sortes de gens. Ceux et ceux qui y tombent et ceux et ceux qui t'y poussent. Bon, la nage n'existait pas hein, jusqu'à aujourd'hui, mais mieux vaut tard que jamais. Ou alors celui-ci, d'adage. Quand t'as les pieds dans la gabouille, c'est pas le moment de chercher tes pantoufles. Et oui, chez nous, la gassouille, c'est souvent un souvenir d'enfance. Mais entre nous, on est tous encore un peu des garagnas. Hein. On y aime bien parfois encore. Quel plaisir de gassouiller un peu.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Bourgogne.
Ici Bourgogne vous raconte les contes et légendes de votre région.
Quel secret peut-il bien se cacher derrière la fresque du lavoir d'Aisy Soutil ? Une peinture a priori sans histoire. Et pourtant, on y verrait le fantôme de Ninon. Bonjour Sandra Amani.
Bonjour Charlotte.
Racontez-nous le destin de la lavandière d'Aisy Soutil, un extrait de votre livre « Légendes de l'Auxois et de la Vallée de Louche » aux éditions L'Or et la Plume. Tout commence aux côtés d'une famille bien modeste de l'Auxois. Ninon vient tout juste d'avoir 16 ans. Elle est la fille de Thomas, le bourrelier du village, un artisan qui travaille le cuir pour les harnachements d'animaux de trait notamment. Un métier indispensable à cette époque lointaine. La jeune Ninon est obligée de travailler pour subvenir aux besoins du foyer et surtout de son petit frère, Gérard. Leur maman est morte l'hiver précédent.
Père, j'ai décidé d'aller faire des lessives pour acheter de quoi cuisiner le potage cette semaine. Des dames de Précy ou du château de la cour d'Arsenay me paieront bien.
Très bien, ma fille. Ta mère serait fière de toi et tu lui fais honneur.
Tout le monde aime Ninon. Elle est jolie, serviable et réservée.
Tout l'inverse de ces adolescentes qui ne pensent qu'à séduire le premier venu. Ninon, elle, est une jeune fille sérieuse. Jusqu'au jour où un étranger arrive au village. Un gars musclé, au visage hâlé à force de travailler au soleil. Il vient renforcer les rangs de la famille Robert, qui a besoin d'un ouvrier supplémentaire pour la saison des foins.
C'est vrai qu'il est bien besogneux, ce Julien.
C'est parce qu'il vient du Morvan. Ils savent travailler là-bas. Et puis il est grand, et séduisant. Mes amis ont finalement raison.
Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive?
Sans s'y attendre, Ninon tombait perdument amoureuse de Julien. Elle va même jusqu'à imaginer devenir sa femme. Un soir d'été, la chaleur est encore écrasante dans les champs de l'Auxois. Julien voit bien que Ninon le suit partout et lui sourit tout le temps.
Je ne peux pas me laisser séduire par Ninon. Même si elle est jolie et gentille, mon cœur appartiendra toujours à Gabrielle.
Gabrielle était en effet la fiancée de Julien. Elle est morte quelques mois auparavant dans un incendie accidentel. En effet, une grange a pris feu. Julien n'arrive pas à s'en remettre. Il est encore amoureux au-delà de la mort. Jusqu'au jour où Ninon réussit enfin à le faire craquer. Le Morvandio n'y tient plus. Le couple s'abandonne à des baisers fougueux. Bien plus que ça d'ailleurs. Une histoire d'amour est née. En tout cas, c'est ce que pense Ninon. Mais à la fin de l'été, Julien repart dans le Morvan.
Mon ami, la saison des foins est terminée. Je dois retourner chez mes parents. Je te quitte alors. Aussi, je ne reviendrai pas. Mon cœur appartient à Gabrielle, ma pauvre fiancée. Je ne pourrai jamais en aimer une autre.
Ninon est abattue. Comment Julien peut-il l'abandonner? Surtout quand elle apprend...
Je suis enceinte!
Contes et légendes d'ici, tous les week-ends, avec Ici Bourgogne.
Comment un un amour d'été finit-il par hanter un lavoir de Lossois ? Voici la suite de l'histoire de la lavandière Daisy Soutil, extrait de votre livre Sandra Amani, légende de Lossois et de la vallée de l'Ouche aux éditions L'Or et la Plume.
Après l'été fougueux avec son amoureux, Ninon devient triste. Julien est reparti pour toujours dans le Morvan. Même si sa fiancée Gabrielle est morte dans un incendie, il ne peut pas aimer une autre femme. C'est le 21 décembre de cette même année que Ninon découvre qu'elle est enceinte.
Oh mon Dieu, mais que va dire mon père ? Tout le monde va se moquer de moi. J'ai déshonoré ma famille.
Ninon décide alors que ça n'arrivera pas. Jamais on ne se moquera d'elle ou de son père. C'est pourquoi, un soir, quand son père et son frère sont parfaitement endormis, Ninon récupère une aiguille à tricoter et sort discrètement de la chaumière. Sans penser à rien d'autre qu'à sauver l'honneur de sa famille, Ninon s'enferme dans un cabanon et entreprend son funeste projet. Bientôt, les draps qu'elle avait récupérés sont rouges de sang. Déchirée par d'horribles contractions, elle parvient pourtant à se relever et à se diriger péniblement vers le lavoir. La pauvre Ninon veut laver son corps tout autant que sa faute. Tentant, malgré sa souffrance, de faire quelques ablutions, elle supplie Dieu de pardonner ce crime, crime qu'elle regrette amèrement à présent. Mais le sang ne cesse de couler. Quelques mois plus tard, c'est du côté de Julien que le miracle se produit.
Mais qu'est-ce qui m'a pris de laisser tomber Ninon ? Gabriel ne reviendra jamais. Ninon est la seule qui puisse m'offrir un avenir. Je dois aller la retrouver.
Au printemps, Julien quitte définitivement le Morvan pour rejoindre l'Auxois, bien décidé à retrouver son amour d'été. Quand il arrive au village des Issoutil, il fait nuit noire. Il ne va quand même pas débarquer comme ça chez Ninon. Il s'allonge alors à côté du lavoir en pensant à elle, quand soudain, il l'aperçoit. Elle semble fatiguée et est toute de blanc vêtue. Au moment où il s'apprête à l'enlacer, elle lui tend le bout d'un drap.
« Aide-moi à l'essorer avant de retourner à la maison. »
Julien, surpris par le ton employé par Ninon, attrape néanmoins le bout de drap, mais celui-ci s'enroule autour de lui et le serre fort, de plus en plus fort, jusqu'à l'étouffer.
« À cause de ta lâcheté, j'ai versé le sang et tué notre enfant juste avant d'expirer. » À présent, tu dois mourir, toi aussi. Je suis là pour me venger. Je t'attendais, la rage au cœur, même s'il ne bat plus. Je savais que tu finirais par revenir dans les parages. Malheureusement, il est trop tard et ta saloperie de Gabriel a eu raison de nous.
Julien suffoque. Le drap comprime son cou. Il porte les mains à sa gorge juste avant de mourir. Le fantôme de Ninon s'était vengé.
Aujourd'hui encore, ne vous attardez pas trop la nuit dans le lavoir Daisy Soutil. Au mur, sur la fresque des lavandières, apparaît souvent une ombre blanche portant un panier. C'est Ninon qui rôde pour venger les femmes abandonnées par leur amant.
Vous écoutez ici.